Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de celui qui a été harcelé par les viewers de Mordwen, c'est Mami Lami.
Salut tout le monde.
Ça va, tranquille, ça s'est calmé depuis que Mordwen a donné des nouvelles?
Oui, oui, c'est bon, plus personne ne me parle maintenant.
Tu n'as pas d'amis, c'est ça, c'est triste. C'est ça,
je suis tranquille.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de Flagship, de Samsung qui se lance dans la réalité virtuelle, de ZeniMax qui contre-attaque, de From Software qui promeut le directeur de Dark Souls, de Drakengard 3, la violence, c'est mal, il paraît. Dark Souls, encore une fois, alors le online sera maintenu, paraît-il, mais nous verrons ça tout à l'heure. Metro Redux, la version HD de Metro 2033 et de sa suite. Des dates, sans oublier notre jeu du moment, un jeu qui a été très attendu, ça s'appelle Transistor, le jeu de Supergiant, les développeurs derrière Bastion. Allez, c'est parti, nous allons commencer par le projet indépendant de la semaine, et oui, car il y en a un cette semaine, et ce projet, c'est Flagship. Imaginez-vous commandant d'un vaisseau spatial, et vous devez diriger votre armée à la bataille. Dans un jeu de stratégie classique, donc vous auriez la vue du dessus comme ça. Sauf que là, non. Dans Flagship, en fait, vous serez en mode Oculus Rift, n'est-ce pas ? Car le jeu a été développé, a été pensé pour être joué avec l'Oculus Rift. Et donc, vous serez sur la passerelle de votre navire à commander votre flotte et à observer une carte interstellaire, en gros, qui permettra de commander vos navires. Et là où c'est intéressant, c'est que ça vous immerge donc au cœur de la bataille. Et ma foi, je ne sais pas ce que tu en penses, mamie, mais autant sur l'aspect tactique, honnêtement, je demande à voir, parce que je suis assez dubitatif pour le moment, ne serait-ce que parce que le plan est en 2D, que c'est con de faire un jeu dans l'espace où tu n'exploites pas la 3D, surtout que j'imagine que dans le futur, quand même, il serait capable de faire des cartes holographiques, mais bon, c'est un autre débat. Autant du point de vue de l'immersion, voire par exemple, je sais pas moi, un tir de canon laser qui touche un de tes vaisseaux juste à côté et qui pète juste à côté de toi, je sais pas, je trouve que ça a l'air très très immersif tout ça.
Ben écoute, oui, ça m'a l'air intéressant. Comme le jeu était pensé pour Oculus au départ, on sent que la principale feature du jeu, c'est quand même de pouvoir se balader dans ton quartier général, on va dire, de pouvoir regarder les jolis vaisseaux qui font pan-pan dehors. Mais après, pour l'aspect tactique, je saurais pas te dire, ça avait l'air intéressant, le fait que la carte soit en 2D m'a pas gêné plus que ça quand j'ai vu la vidéo, parce que oui, on peut faire des trucs holographiques, mais est-ce que ça aurait pas été trop du coup du fait qu'on peut regarder les vaisseaux dehors?
Bah je pense pas, non, parce qu'on a déjà eu comment dire, honnêtement, là je pense que ça va être assez limité par rapport à des jeux qu'on a déjà eu dans le passé dans ce genre là si tu veux, parce que moi je me base par rapport à mon vécu. Dans des jeux de bataille spatiale comme ça, moi j'ai l'habitude, si tu veux, de dire, alors ok, là on va les prendre par le dessus, tu vois, pendant qu'il y a l'autre flotte qui va arriver par en dessous, etc. Enfin, il y a une dimension 3D qui rajoute un aspect tactique que je trouve passionnant dans les jeux spatiaux, qui là je trouve manque en fait. Mais ça, c'est mon sentiment personnel d'amateur du genre, quoi.
Après, ouais, c'est possible, mais après je suis pas certain que ça pâtit sur le jeu, parce qu'après j'ai peur que à mon avis, à un moment ils ont dû faire un choix entre est-ce qu'on fait une tactique poussée ou pas, parce qu'à partir du moment où tu vas faire une tactique poussée, bah t'as plus le temps d'aller voir ce qui se passe dehors, donc je pense que c'est plus pour ça qu'ils ont fait ça.
Ouais, mais voilà, le problème c'est que est-ce qu'au bout d'un moment, tu vois, tu vas pas te lasser de ce que tu vois dehors, c'est ça le problème, c'est que est-ce que ça va pas être la feature, ouais, c'est super cool, 10 minutes, puis au bout de 10 minutes, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Oh, je pense que si. C'est pour moi, ça c'est pas un jeu qui a forcément un énorme avenir, hein, de ce que j'en vois, hein, c'est mon avis personnel toujours. Non, enfin voilà, c'est le problème, c'est que là Oculus, c'est une technologie qui commence tout doucement. Du coup, toutes les premières idées de jeu semblent géniales parce que c'est les premières, sauf que des jeux comme ça, on va en voir pulluler plein très vite, et voilà, donc là il a la chance d'être le premier de son genre, mais comme tous les premiers jeux de son genre, ben il y a une feature intéressante et puis pas grand chose derrière. Et après, c'est le fait qu'il y en aura 100 comme lui qui vont obliger les autres à se creuser la tête dessus, quoi, je pense.
Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un débat que j'ai vu sur Canard PC cette semaine, où ça parlait de la centaine de clones qu'il y a quand un jeu indé marche. Mais justement, c'est ça l'intérêt. Ouais. C'est que quand un concept marche, après, il y en a qui arrivent derrière et qui développent le concept, quoi.
C'est ça.
Bon, mamie.
Oui.
Samsung, réalité virtuelle, que quoi qu'est-ce?
Ah, alors, bon, c'est simple. Si je vous dis donc Oculus, VR et Morpheus, je ne vous parle pas du prochain Matrix, mais des deux casques de PS4, donc pour Morpheus, et Oculus VR, c'est pour PC. Donc c'est, voilà, la réalité virtuelle, elle peut en poupe. D'ailleurs, on vient d'en parler. C'est beaucoup l'appel l'avenir du jeu vidéo, puisque voilà, c'est une nouvelle façon d'appréhender le rapport avec la caméra, enfin le rapport avec la télévision, etc. Et donc Samsung s'est dit que ce serait pas mal de s'engouffrer un peu là-dedans en créant un casque à lui, donc le Samsung VR, il me semble, tout bêtement, hein, qui est un casque qui marche pour téléphone portable.
Alors,
et tablette, oui, pardon. Donc, tout ce qui marche sous Android, en fait, hein, tout bêtement. Et pour quoi faire? Eh ben, pour jouer. Voilà. Donc, c'est pour le jeu. C'est dédié au jeu. Donc, le premier jeu à être développé en partie pour ça, puisqu'il faut un développement particulier, hein, pour prendre en compte les mouvements du casque, c'est Minecraft. Donc, il va y avoir un Minecraft VR sur mobile. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, puisque là c'est plus une annonce toute bête, hein. on a pas vu grand chose.
Alors,
mais voilà.
Moi je sais pas ce que tu en penses, mais je suis super dubitatif, parce que, je veux dire, imagine-toi, bon, tu mets le casque de réalité virtuelle sur ta gueule, donc tu ne vois plus la tablette, par exemple, en partant du principe que c'est la tablette. Minecraft, quand même, l'intérêt principal du jeu, on est d'accord que c'est la construction.
Tout à fait.
Alors, je sais pas si tu t'imagines, donc t'as le casque sur la gueule, tu dois construire quelque chose, tu fais comment?
Ben, oui. C'est-à-dire que les contrôles, oui. Alors, est-ce que ça... Voilà, maintenant, il y a énormément de... Une autre tendance dans les jeux mobiles en ce moment, c'est les manettes.
Ah,
où
oui.
On plug son... Enfin, on branche son mobile dessus. Donc voilà, couplé à une manette, pourquoi pas. Après...
Mais du coup, enfin, je veux dire, en gros, c'est la version console qui fonctionne comme sur de la même manière sur tablette, quoi. Il n'y a aucune feature spécifique à la tablette.
Ah ben, la tablette, après, non, tu retires tout ce qui est tactile, et puis voilà, hein, c'est...
Voilà.
Non, mais ça a le côté portable en plus. Voilà.
Oui, on t'a plus la console qui trône au milieu de ton salon, quoi. C'est
non, mais c'est ça. Voilà, tu peux jouer dans ta chambre. Tu peux t'amuser même à oublier que t'as le casque sur les yeux et à te taper contre un mur en voulant, je ne sais pas, moi, aller à la cuisine pour boire un verre. Enfin, c'est voilà, c'est un monde de possibilités s'offre à nous.
Alors, pour le coup, alors celle qui m'intrigue encore plus, c'est la version mobile. Alors là.
Ah oui, ben c'est pareil pour le jeu, parce que maintenant quand même t'as des mobiles. Les mobiles visés sont quand même le Galaxy Note 3 et le Galaxy S5, hein, qui voilà, c'est deux mobiles beaucoup plus puissants que les premières tablettes qui sont sorties il y a même 2 ou 3 ans. Hein. Mmh. Les spécificités technologiques d'un Galaxy Note 3 ou du prochain S5, c'est assez terrifiant. Le S5, à mon sens, il me semble, bat la première Galaxy Tab haut la main. Enfin voilà, c'est ça va très vite dans le monde du mobile, le hardware, donc ça me choque pas plus que ça, si tu veux. Tant t'as des jeux qui peuvent être même très beaux, qui sont sur portable, et il faut aussi pas oublier que, ça on dirait que ça n'a rien à voir, mais il y a l'Unreal Engine 4 qui est sorti il y a peu, et qui permet de faire des jeux mobiles qui ont la qualité graphique qui dépasse certains jeux PC, même récents. Je vous invite à aller voir des démos techniques de l'Unreal Engine 4 pour mobile. C'est assez terrifiant ce qu'on arrive à faire maintenant pour simple téléphone, quoi.
Mais du coup, tu flingues ta batterie, c'est ça?
Ah bah ça, après, la batterie, c'est autre chose, hein. Mais c'est possible, c'est déjà ça.
Honnêtement, je suis pas du tout convaincu, hein. Vous l'aurez compris, ça me laisse assez dubitatif. En tout cas pour le jeu. Par contre, s'il s'agissait, tu vois, par exemple, de mater un film dans le train, moi je pense que ça ferait un super home cinéma, tu vois, pendant que tu prends ton TGV pour aller je sais pas où, ben tu te plugues ton casque de réalité virtuelle sur la tronche et puis tu regardes ton film tranquillou, quoi, sans que personne te fasse chier. C'est, je trouve ça sympa, moi. Mais ouais, honnêtement, le jeu, là, j'avoue que bon. Alors effectivement, tu mets la manette, mais bon, à ce moment-là, je trouve que ça réduit pas mal l'intérêt du truc. Mais donc, nous allons passer à la suite et nous allons maintenant parler de ZeniMax.
Ah.
Alors, c'est toujours de la réalité virtuelle, hein. Sauf que là, on va parler de Oculus Rift, parce que ZeniMax, ça n'aura échappé à personne, donc c'est la boîte qui détient ID Software. ID Software, donc, qui est l'ancienne boîte de John Carmack, et John Carmack, donc, qui est l'un des pères fondateurs de l'Oculus Rift, n'est-ce pas? Et pourquoi, donc, ZeniMax attaque Oculus VR, qui a été racheté, je le rappelle, par Facebook il n'y a pas si longtemps? On en a suffisamment parlé sur ce site, n'est-ce pas, pour que vous soyez courant, et même partout sur Internet. Hein.
Oui.
Parce que, d'après ZeniMax, donc, le père Carmack aurait utilisé, bon, de ce qu'on comprend, des lignes de code qui appartiennent à ZeniMax, pour bosser sur le projet Oculus Rift, et que, donc, Carmack serait barré comme un petit salopio de voleur avec ses fameuses lignes de code, et qu'il aurait monté grâce à ça le projet Oculus Rift. Alors, moi, juste, je pose une question, pourquoi il a fallu attendre que Oculus VR soit racheté par Facebook pour que ZeniMax se réveille? Voilà, c'est tout.
Bah, maintenant, ils ont de l'argent. À mon avis, c'est ça la grosse différence de, par rapport à avant. Hein.
Ils sont solvables, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça. Maintenant, ils ont l'argent de Facebook avec eux. Non, mais voilà, en plus, j'ai lu plusieurs choses comme quoi, en plus, c'était pas recevable comme plainte.
Mmh.
Notamment parce que les bouts de code qui sont mis en cause ne sont soumis à aucun brevet.
Bon, ils ont sûrement trouvé ça sur l'ordinateur de Carmack à son bureau. Ils se sont dit, ah, vous voyez.
Bon, on n'est plus étonné maintenant dans le monde du jeu vidéo d'avoir des plaintes un peu débiles. Regardons King tous ensemble. Mais à mon avis, l'argent est un bon moteur pour ce genre de petite fourberie. Imaginons qu'ils aient raison. Moi, j'imagine ça comme ça. Hein. Donc, John Carmack aurait volé du code. Déjà, ça me fait bizarre de voilà, voler du code, qui appartenait donc à ZeniMax, pour monter Oculus VR. Mm. Donc ZeniMax avait du code qui permettait de monter de la réalité virtuelle, à un moment.
Oui.
Parce que, voilà. Donc ça veut dire que soit ZeniMax, il a un appareil de réalité virtuelle, sous le coude, qui sont en train de dev, mais à ce moment-là, ils sont vachement lents, parce que depuis le temps qu'Oculus Carmack est dessus, ils auraient eu le temps de sortir trois cases différents, je pense.
Puis surtout, ils auraient sûrement eu moyen, tu vois, de, par exemple, approcher Oculus VR pour dire, bah nous, ça nous intéresse de financer le truc, quoi, par exemple.
Oui, voilà. Soit donc, non, ils ne sont pas en train de développer un dispositif de réalité virtuelle, auquel cas ils ont pas le code pour monter un dispositif de réalité virtuelle, parce qu'on code rarement un truc qu'on fait pas, hein. Mmh. Auquel cas du coup il n'a pas été volé, et auquel cas bah c'est juste n'importe quoi, et, une attaque d'opportunité. Moi je pense que c'est une attaque d'opportunité, hein. Mais voilà, parce que je vois pas en quoi, comme, enfin déjà, John Carmack, est-ce qu'il a vraiment besoin de voler du code? Il me semble pas. Il est très fort pour coder des trucs lui-même, donc non, moi je trouve ça trop bizarre pour que ce soit honnête de la part de ZeniMax, pour le coup. Mm. Qui eux n'ont plus fait grand chose dans l'industrie depuis un moment.
quand même, ZeniMax, c'est tous les Elder Scrolls.
Oui.
Je veux dire, c'est quand même l'un des jeux les plus vus sur YouTube, par exemple, Skyrim, enfin... et aussi, c'est quand même Dishonored, enfin, faut pas exagérer non plus, quoi.
C'est un éditeur, autant pour moi. C'est un éditeur. Quand je dis qu'ils n'ont pas fait grand-chose, c'est qu'eux ne développent rien. Donc en plus...
Tu parles en termes de moteur, par rapport à l'Elite Tech 5, ce genre de choses, quoi.
Voilà, ce genre de choses, ça fait un moment que c'est qu'il n'y en a plus. Et ce que je veux dire, de production de la part de ZeniMax, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Du coup, ça m'étonnerait qu'ils aient du code à voler, tu vois, à se faire voler. C'est là où je voulais en venir. Non, forcément, en édition, oui, voilà.
Nous allons donc passer maintenant à From Software, avec la promotion du directeur de Demon's Souls et de Dark Souls, Monsieur Miyazaki, à ne pas confondre... avec qui vous savez, autre... n'est-ce pas
le joueur de basket.
Voilà. Et qui doit donc devenir le boss de la boîte, vu que je rappelle que From Software a été racheté récemment, c'est ça, mamie?
Oui, ça a été racheté par la société japonaise Kadokawa. Et ce nouveau directeur, c'est donc bien sûr Miyazaki, qui n'est toujours pas le créateur de films d'animation, hein, mais bien celui qui a fait Dark Souls et Demon's Souls, et pas Dark Souls 2, comme j'avais dit l'autre coup, c'était faux.
Alors, pourquoi on vous en parle cette semaine? Parce que je pense pas que ce soit une super nouvelle, moi, en fait. On est d'accord que un mec comme ça, qui est propulsé patron de la boîte, bon, a priori, il va plus trop se préoccuper de jeu, là.
Faut voir, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à penser que le patron parfait pour une boîte, c'est le game designer principal de cette boîte. Sans trop y réfléchir, c'est ce qu'on pense tout de suite. Ben, mais à un moment, la boîte, elle fait des jeux, donc quelqu'un qui fait des jeux, qui design les jeux, il est plus amené à diriger la boîte de jeux. Oui, mais non. C'est-à-dire que c'est créer des jeux ne te rend pas expert en management et en gestion de projet. Enfin, si, gestion de projet est pas mal, mais en gestion de ressources, qu'elles soient humaines ou financières, c'est des pôles très importants. En plus, il faut quand même gérer aussi tout ce qui est l'aspect com, etc. Quand t'es dirigeant de la boîte. Donc voilà, après il est pas vraiment dirigeant, il est président de la boîte.
Oui, parce que on rappelle qu'ils ont été rachetés quand même, il y a quelqu'un au-dessus de lui quoi.
Ouais, c'est ça. Il est même pas président, directeur général, apparemment il est juste président. Si c'est président tel que je l'entends, tel que je l'ai compris, c'est la figure de la boîte quoi. C'est pas vraiment celui qui va être dans le décisionnel pur. Donc si c'est ce poste-là, il est tout indiqué parce que après tout qui mieux que lui connaît les derniers projets sortis dernièrement, quoi. Enfin, c'est lui qui était donc directeur principal de Demon's Souls et Dark Souls et superviseur en chef de Dark Souls 2, donc, il connaît la direction de la boîte actuelle. Donc, s'il est là juste pour, être la tête, c'est-à-dire pas la tête pensante, mais la tête, le visage de la boîte, oui. Voilà, on peut dire, c'est la boîte de Hidetaka Miyazaki, machin. Après, peut-être qu'il est super compétent dans le domaine de la direction de boîte, on sait pas. Hein. Mais non, moi j'ai pas si peur que ça. Puis de toute façon, c'était pas lui qui était en charge de Dark Souls 2 et je sais pas ce qu'il a donné, mais en tout cas, il s'est pas mal vendu apparemment.
Il y a eu des retours globalement positifs, donc bon.
Oui, voilà, donc.
A priori, la relève est là, n'est-ce pas?
Y a pas de souci à ce niveau-là.
D'ailleurs, toujours à propos de Dark Souls, alors rassurez-vous, messieurs dames, vous aurez toujours du online malgré le fait donc cette grosse de base de Game for Windows Live sera a priori fermée. Je dis bien a priori parce que bon, Microsoft a pas été très clair parce qu'au départ ils ont dit que oui ils allaient le fermer, sauf qu'après ils ont dit que le fermer comme ça de manière abrupte c'était peut-être pas la meilleure solution, qu'il y aurait peut-être un truc alternatif, donc on sait pas. Apparemment Microsoft prépare quelque chose pour les jeux qui étaient sous Game for Windows Live, mais on sait pas quoi en fait, donc c'est super. En attendant donc que les gens se disaient bah et du coup mon jeu j'en fais quoi. En tout cas du côté de Dark Souls, quoi qu'il arrive, le online sera assuré de ce que j'ai compris.
Ouais, pour Game for Windows Live, donc c'est censé fermer le 1er juillet.
D'accord.
Mais voilà, ils pensent à une version peut-être modifiée du programme pour continuer quand même à faire des serveurs. Parce qu'après tout, Game for Windows Live, comme n'importe quel programme, est dans une version fixe ici. Si on dit, bon, on arrête ce programme-là, il suffit de reprendre le même, de changer deux, trois trucs et puis on lui donne un autre nom. Hein. Je pense que voilà, c'est suffisant pour dire que c'est un autre programme. Surtout que c'est la même boîte, donc ils vont pas s'attaquer pour vol de code pour ce coup-ci. Donc après, je sais qu'ils sont en train de plancher sur une autre version. Alors pas une autre version de Game for Windows Live, en tout cas pas officiellement, mais sur un autre programme similaire pour continuer les jeux online, parce que c'est vrai que mine de rien, cette daube sans nom a quand même quelques jeux qui jouent pas mal online sur le dessus, donc ce serait dommage de tout couper juste parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils ont fait n'importe quoi.
Effectivement. Notamment, je crois, c'est Street Fighter 4 qui était dessus aussi.
Ouais. Et donc, tous voilà. Ces dérivés, bien sûr.
Quoi que les dérivés, non, il me semble que ils sont passés à Steam à un moment donné, mais ou alors c'est le prochain qui est prévu sur Steam, je ne sais pas exactement.
Ça doit être le prochain, il me semble. Je suis pas sûr.
On va maintenant passer à Drakengard 3. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Drakengard, c'est une série mêlant beat'em all et RPG assez connue chez les amateurs du genre. C'est une série notamment dont l'auteur a aussi travaillé sur un jeu qui avait été pas mal hypé sur 360 et PS3, à savoir Nier, qui se déroule dans le même univers d'ailleurs. Globalement, en termes d'histoire, c'est une très bonne série. Enfin bref, c'est pas le fond du sujet là. Le fond du sujet, c'est que cette semaine, donc il y a le troisième épisode qui sort là, et la personne donc qui est derrière le projet, enfin le game designer du jeu quoi, il me semble, le producteur, je crois, non, le producteur, voilà, du jeu, a déclaré que oh là là, les jeux violents, c'est pas bien. Je résume, hein, parce que en gros, le mec a fait une vidéo de 10 minutes où il t'explique que la violence, c'est pas bien, que l'industrie tourne un peu en rond et que lui considère que c'est un échec personnel, blablabla, blablabla, blablabla. Et à force de l'écouter, à un moment, tu dis, mais... alors, déjà, Nier, Drakengard, c'est des jeux super violents. Mais vraiment, hein, c'est pas genre des jeux pour bisounours, ça, c'est vraiment des jeux violents, quoi. Ce monsieur, il attend quoi, en fait, pour, je sais pas, moi, faire des jeux non violents, par exemple, ça serait une idée, tu vois, se barrer de Square Enix pour monter sa propre boîte, enfin, avoir un CV cohérent par rapport à ses propos, à un moment donné. Je sais pas, c'est le genre de vidéo qui met les experts, en fait.
Oui, c'est une tendance en ce moment, ce qu'ils appellent les real talk. C'est voilà, je vais vous parler sans langue de bois sur ce que je pense de tel ou tel truc de l'industrie, etc. Bon, là, lui, j'ai crash sur les jeux violents tout en faisant des jeux violents, pourquoi pas. Après tout, bon, je trouve ça ridicule, hein, voilà, mon avis c'est celui-là, c'est que c'est complètement ridicule, mais après tout, ils ont le droit de s'exprimer et de dire de la merde, hein, ça c'est leur choix. Ah, mais attends, quand je dis dire de la merde, c'est par rapport à son passé. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait des jeux trop violents, je suis d'accord.
En tout cas, il n'y a pas assez de jeux, entre guillemets, où tu n'as pas à trucider tout le monde, quoi. C'est ça qu'il dit, dans le fond, en fait.
Oui, mais d'un autre côté, moi je trouve pas ça grave. C'est-à-dire que, quand tu vois comment est fait un jeu vidéo, t'as pas énormément, si tu veux faire un jeu basique, hein, c'est-à-dire tu veux pas mettre de message dedans, tu veux juste voilà un défouloir, un truc comme ça, tuer plein de gens, c'est quand même le moyen le plus simple dans un jeu de faire en sorte que quelqu'un se défoule. Attention, je dis pas le meilleur, je dis le plus simple.
Ouais, parce que est-ce que c'est pas une solution de facilité, c'est ça,
si,
le truc.
Justement, mais on est dans une industrie qui devient de plus en plus apte à suivre la facilité. C'est un grand problème, mais c'est le cas. Et
j'ai envie de dire, c'est le principe d'une industrie. On fait des produits qui marchent.
Oui, voilà, tout à fait. On fait des produits qui marchent. Sauf que là, l'industrie du jeu vidéo a pour elle les jeux indés. Certains jeux indés, parce qu'encore une fois, je ne redirai jamais assez à quel point l'indé, pour moi, c'est un sujet sensible, mais qui permettent de faire quand même autre chose et de voir autre chose. Mais est-ce qu'on peut vraiment se plaindre du fait qu'il y ait énormément de jeux qui demandent de dézinguer des trucs? À mon sens, non, parce que justement, voilà, c'est ce qui marche. Et c'est purement hypocrite de la part de quelqu'un qui fait partie de l'industrie, qui fait des jeux comme ça, c'est ça le pire.
Non, mais surtout que Drakengard, je veux dire, je connais pas mal la série, dans le genre violent, ça se pose là, quoi. C'est des hectolitres de sang partout, suffit de regarder la vidéo où il fait sa présentation, je veux dire, à un moment donné, tu vois une nana qui est couverte de sang, bon, voilà, quoi. Ça tout dit, tu vois, à un moment donné, bon, tu dis, mais il attend quoi pour se barrer de Square Enix, quoi, en fait? C'est ça, ouais, le truc, c'est pour ça. Monter sa propre boîte et essayer de faire des jeux non violents, vu qu'apparemment, il peut pas les faire chez Square Enix.
Non, bah, oui, et puis en plus, Square Enix, bon, je suis pas sûr que ce soit les plus relous au niveau, niveau liberté, hein. Mais, Et voilà, cet homme se plaint, voilà, cet homme se plaint, comme je te disais avant qu'on enregistre, il y a la même au cinéma, certains acteurs qui font des films violents et pendant la promo du film, comme ils ont compris leur métier, ils crachent dessus parce que le film est violent et ils s'en sont rendus compte seulement après avoir tourné les scènes. Tu me diras, ça peut être normal vu que le montage n'est pas vu par les acteurs au départ, mais un regret peut-être, voilà, cet homme à un moment a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'il a eu une introspection et que voilà, il s'est dit oui, peut-être que j'ai fait des jeux trop violents, etc. Dans ce cas-là, c'est compréhensible. De toute façon, ça reste un humain qui va pas faire la même chose toute sa vie, je pense, qu'en tout cas qui n'a pas envie de faire la même chose toute sa vie. Donc voilà qu'il ait cette réflexion-là. C'est assez ridicule quand tu vois ce qu'il a fait avant, mais en partant du principe que, imaginons qu'il ait une épiphanie, peut-être que non.
Je suis pas d'accord avec toi sur un point, c'est que qu'il ait cette réflexion-là, moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'il a l'impression qu'il fait un peu la morale, en fait. Moi, qu'un mec se dise « j'ai plus envie de faire le jeu violent », ben ouais, c'est cool, vas-y, lance-toi, mec, je suis à fond derrière toi, quoi, à la limite. Mais qui se permette derrière, tu vois, on a l'impression de, je sais pas, de dire « oh là là, vous avez pas honte, franchement », enfin, de dire « réveillez-vous », genre les mecs sont trop cons, tu vois, pour pas réaliser que l'industrie produit beaucoup de contenu violent. Je pense que c'est bon, les gens sont conscients, il n'y a pas besoin de... Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs, il y en a des jeux non violents depuis que l'industrie existe, Tetris ça existe quoi. Je veux dire, à un moment donné alors après effectivement faire des jeux narratifs qui ne sont pas basés sur la violence, ça c'est plus compliqué, je suis d'accord, et peut-être que ça manque de jeux de ce style-là. Mais ça me dérange toujours de voir des mecs se poser en moralisateur alors que finalement quand tu regardes leur parcours, tu fais avant de faire la morale aux autres, faudrait peut-être déjà faire autre chose, et puis qui tu es pour faire la morale, quoi, déjà. C'est ça qui me... ça m'agace.
Ah oui, tout à fait. Mais après, il faut reconnaître, voilà, que faire un jeu sans violence, purement sans violence, c'est très compliqué. J'ai vite fait une anecdote, c'est le dernier contrôle qu'on a eu cette année, donc parce que pour vous expliquer vite fait, donc j'étudie le game design, hein, si jamais vous n'avez pas suivi un peu ce qui s'est dit avant, c'était de créer un jeu et le thème c'était donc sans aucune violence. Donc ça tombe bien. Et beaucoup de gens, dont moi, on est tombé dans le travers de faire un jeu où il n'y avait pas de combat, par exemple. Moi j'avais basé, tous les combats étaient des dialogues, voilà. Sauf que dans les dialogues, tu peux avoir de la violence. Le problème, c'est que voilà, déjà, qu'est-ce qu'il entend par violence? Et là, ça peut être un débat super long. C'est-à-dire que là, nous, on a basé notre réflexion quasiment que sur de la violence, combat et gore avec du sang, etc. Mais t'as des jeux sans ça qui sont d'une violence assez forte. C'est par exemple, je prends un jeu tout con, hein, Battle Block Theater, un jeu que j'ai joué il y a pas longtemps, vu que j'ai sorti il y a pas longtemps sur Steam. Là, il y a pas de sang. En gros, hein, y a rien de méchant, c'est tout mignon, c'est des petits carrés, enfin des personnages avec des têtes carrées, triangles, etc. C'est même mignon, il y a des petites musiques, design papier, etc. Sauf que bon, bah tu passes la moitié du temps à frapper sur le mec quand tu joues à plusieurs, à te frapper dessus. Tu peux être pulvérisé par des lasers, etc. Sauf que il y a pas de sens, tu vois, on ressent pas cette impression de violence. Pourtant, elle est là. Et pour moi, la violence dans le jeu vidéo, c'est pas... Déjà, pour moi, c'est pas un débat. C'est un débat, mais c'est pas un débat constructif, parce que le jeu vidéo permet, justement, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Mmh. Or, si tu retires toute violence du jeu vidéo, à un moment, l'humain est tel qu'il est, comment il fait d'une telle façon qu'il a besoin de violence, lui. Mmh. Voilà. C'est depuis Rome, où on avait les gladiateurs pour calmer un peu les pulsions violentes des gens qui allaient les voir. Bah là, on a le jeu vidéo pour faire ça. Et il y a certaines études. Donc, il y a certaines études qui montrent que les jeux vidéo rendent violents. Bon, mais elles sont rares. T'as d'autres, beaucoup plus d'études qui montrent que, justement, c'est un défouloir qui permet d'être plus calme dans la vraie vie après, si tu veux.
Ce qu'on appelle la catharsis, n'est-ce pas?
Exactement. Donc, pour moi, voilà, c'est faire des jeux moins violents, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est mon avis sur la question. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur, parce que si les gens n'ont plus de violence dans les jeux vidéo, ou dans les films, ou dans quoi que ce soit, ils vont la reproduire ailleurs, et il vaut mieux pas. Donc, du coup, les jeux vidéo violents sont bien. Après, il y a des jeux vidéo non violents, qui sont très bien aussi, hein. On peut penser à Journey, ou à Flowers, ou des jeux comme ça, qui sont des pures expériences contemplatives, Mais un jeu vidéo purement contemplatif, enfin moi j'y jouerais pas 15 heures d'affilée si tu veux. C'est à un moment le jeu c'est fait pour s'amuser aussi et tu t'amuses quand même, c'est triste à dire, mais tu t'amuses plus quand tu tapes quelque chose que quand tu regardes je sais pas un arbre pousser.
Oui, après je pense quand même qu'il y a moyen de s'amuser en faisant quelque chose où tu tapes pas quelque chose, mais
non mais
on n'est pas, il n'y a pas besoin de faire dans le contemplatif si tu veux pour ne pas être violent quoi à un moment donné quand même.
De pas être violent du tout.
Bah Tetris c'est pas violent encore une fois.
Non, Tetris, c'est un
exemple à la con hein, mais
non c'est sûr. Candy Crush non plus d'ailleurs quand on y pense, mais non c'est vrai. Mais je faisais une généralité sur deux points très différents.
OK. Nous allons maintenant parler de Metro Redux. Donc Metro Redux c'est quoi? C'est Metro 2033 et Metro Last Light qui ressortent sur Next Gen à 20€ chacun, il me semble, enfin $20.
Oui.
En version remakée, en gros. Ils ont retravaillé tous les graphismes des jeux. Alors, autant Metro 2033, ça me paraît pas idiot, tu vois, autant Metro Last Light qui est beaucoup plus récent, bon. J'attends de voir les modifications, hein, on verra bien. Mais pourquoi on vous en parle cette semaine? Parce que on voulait passer par le biais, si vous voulez, de ce Metro Redux pour ouvrir le débat sur tous ces jeux qui profitent du saut de génération pour se voir en portage HD. Est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité? Voilà, c'est la question que je pose, Mamie, de se dire, oh, bah écoute, finalement, c'est un peu chiant, tu vois, de développer des nouveaux jeux. Si on prenait un ancien jeu qui est un peu vieilli, on le remet un petit peu au goût du jour graphiquement, et puis voilà, ça va se vendre comme des petits pains, surtout que ça s'est très bien vendu à l'époque, donc voilà.
Alors, oui et non, comme d'habitude.
Ah, ça c'est Mamie, hein.
C'est voilà, c'est bon, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est que Metro Redux est aussi prévu sur PC. Là ça devient tricky comme on dirait parce que bon sur PC tu peux booster ta machine et jouer aux anciens, surtout la Slide qui est pas si vieux que ça, qui était loin d'être moche déjà, 2033 était pas forcément très moche non plus à son époque. À partir du moment par contre où tu commences à voir donc là je reste sur le cas Metro, on va étendre après à d'autres cas qui sont actuels ou prochainement qui sortent sur PS4 et Xbox One. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, ça permet aux gens, voilà, il faut penser qu'il y a aussi des jeunes générations de joueurs la prochaine hein, qui ont je sais pas moi bah au moins 18 ans parce que de toute façon les jeux sont interdits au moins de 18 il me semble.
Genre, les gens respectent les interdictions.
Oui, non, mais là, je parle d'un cas utopique, hein, mais on va dire donc 15-16 ans, même un peu avant, qui commencent leur vie de joueur sur ces consoles-là. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, ils ont pas eu de console jusqu'à maintenant, ils ont réussi à harceler papa-maman pour avoir la PS4 ou l'Xbox One, ils l'ont. Sans être méchant, ils ont pas une ludothèque énorme, là, pour l'instant, sur ces deux consoles. Donc, ils sortent des jeux, on va dire, plus vieux. Dans des versions retravaillées parce que tu peux pas ressortir non plus des jeux vieux dans des versions normales et les vendre à 40€ même deux jeux, tu vois, c'est un peu du vol.
On est d'accord, mais après est-ce qu'on peut pas faire ça en démat par exemple?
Ah, tu peux faire ça en démat, notamment le PSN à l'époque, ça permettait de refaire des jeux qui étaient sortis sur PS1, tu les achetais quoi, ça coûtait 8€, un truc comme ça, et ça te permettait de te mettre à jour, on va dire, dans tes cultures jeux vidéo. Bon après c'est pas bien, mais il y a les émulateurs.
Oh, moi, je les utilise sans remords, mais bon.
Moi non plus. Mais, tu veux, on m'a appris justement à dire c'est pas bien sans le penser, tu vois, mais, parce que moi, j'ai rien contre les émulateurs, au contraire. Mais, voilà, pour te rattraper, parce que c'est vrai que c'est important, comme le disait, Douglas Alves, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, surtout au niveau de la presse, il n'y a pas de bibliothèque de jeux vidéo. C'est-à-dire que t'as des bibliothèques, t'as des vidéothèques pour le cinéma, et il n'y a pas encore de ludothèque. En tout cas, c'est pas répandu. C'est-à-dire qu'on peut pas aller emprunter un jeu pour y jouer, quoi. Donc voilà, tous ces moyens-là de pouvoir faire des vieux jeux, ouais, c'est plutôt sympa, mais émulateur en tête, ça te permet de faire des jeux même encore plus vieux que ça. Maintenant, le problème, c'est que dans le cas de Metro, ça ne m'embête pas trop. parce que 40€ pour des jeux, on va dire, relativement récents encore, hein. Metro Last Light est sorti il y a quoi, 2 ans, un truc comme ça.
2033 commence à dater pas mal quand même, hein.
2033, ouais, mais voilà, ces deux jeux-là, bon, à 40€ les deux jeux, sachant que c'est sur PS4 avec techniquement des graphismes HD, en espérant, j'ai pas encore vu, mais en espérant qu'il y ait 2-3 features en plus quand même, ou, je sais pas, un niveau supplémentaire, ou, des trucs sympas. Ça reste honnête. Par contre, il y a certains jeux. D'ailleurs, ce qui me fait doucement rigoler, là, c'est le prochain The Last of Us. Je sais plus le nom de l'édition, mais c'est The Last of Us truc édition, où il y a eu Tomb Raider Ultimate édition aussi, il me semble.
Ouais.
Là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on avait eu le même débat il y a quelques années sur PS3 quand ils ont sorti tous les HD Remix. Il y avait les Resident Evil, il y avait Kingdom Hearts, des trucs comme ça en HD Remix. On s'était dit, oui, bon, ils vont tous nous les faire. Effectivement, on a eu droit à Devil May Cry et compagnie juste derrière. Voilà, ça, c'était déjà un débat un peu tendu à l'époque, je me rappelle. On était tous assez d'accord pour dire que ça sentait bon la pompe afrique. Ça sent toujours bon la pompe afrique, sauf qu'en plus, maintenant, ils ont la légitimité de dire, ouais, mais les consoles sont encore récentes. Et n'ont pas beaucoup de jeux à elles. Donc, on peut faire ça. Donc, quand je dis que oui, c'est gênant, c'est oui, parce que bon, on ressort des anciens jeux au prix fort, je sais pas combien coûtera The Last of Us, mais il me semble que c'est pas non plus 20€, hein. Donc là, ça devient éthiquement douteux. Par contre, non, parce que ça permet au mec qui a que la PS4 de pouvoir jouer à des jeux auxquels il n'aura jamais accès s'il achète pas une PS3, et la PS3, c'est pas encore donné.
Mais moi, si tu veux, ce qui me gêne, c'est que ces versions-là, en plus, on est là, en... bon, c'est des portages, quoi, en fait. En fait, c'est le côté, à une époque, tu vois, on appelait ça un portage, tout simplement, on te dit, bah voilà, on ressort le jeu sur la prochaine génération, et puis voilà, point, c'est tout. Sauf que là, en fait, on essaye de te faire passer ça pour vraiment la version très très bien, tu vois, qu'il faut absolument acheter, parce que tu vois, maintenant, les cheveux de Lara, ils bougent, attention, hein, tu joues au jeu des 7 différents. Tu vois, sur les screenshots pour voir les détails qui diffèrent, etc. Et t'as un peu l'impression que on te prend un peu pour un âne, quoi, en fait. C'est surtout ça qui me dérange, quoi. Juste, voilà, sortez les jeux et puis c'est tout, point. Il n'y a pas besoin de faire passer ça pour des super portages HD, machin, bidule, alors que ça se joue à 3 poils de cul près, quoi.
Bah après, il y a... Après bon, c'est un coup marketing, on peut pas leur en vouloir, hein. Après tout, faut les vendre ces boîtes, parce que c'est un pari quand même. Tu ressors un jeu qui est sorti il y a quelques temps sur une nouvelle console, justement, si tu mets un petit Ultimate Edition, les gens vont dire ah c'est mieux, ils vont l'acheter. Après, ce qui est bien la plupart du temps, c'est que maintenant, ce qui n'existait pas la période des HD Remix, parce que ça reprenait des jeux à l'époque où il n'y avait pas encore de DLC. Là, souvent, ils intègrent tous les DLC dans la version Ultimate machin, qui est moins cher que le jeu original déjà. Sauf qu'en plus, t'as pas à te taper les DLC derrière. Ça, par contre, je trouve ça intéressant. Par exemple, The Last of Us, il me semble qu'il y aura le Left Behind en même temps dans l'Ultimate Super Edition HD+. Il y aura quand même le DLC donc solo qui est Left Behind qui est sorti après, qui revient un peu avant le jeu. C'est intéressant, si tu veux, parce que ça te permet, à un prix moins cher que le jeu original à l'époque, d'avoir le jeu original un peu retravaillé, même si c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est toujours un peu quand même, avec des DLC supplémentaires que t'auras pas à payer en plus.
Après, j'ai envie de dire, c'est un minimum, quand même.
Ah, bah, c'est un minimum. Mais, les versions HD Remix, ça avait pas ça, hein. C'était le jeu avec une texture supplémentaire un peu plus jolie.
Et encore des fois, il y avait certaines versions qui étaient plus buggées que les originaux, il me semble. Je sais plus.
Oui.
Oh, c'est Metal Gear ou Silent Hill, je sais plus.
Il me semble que c'était Devil May Cry. Mais je suis pas certain. Mais voilà, après, non, moi, après, ça m'embête pas. Bon, là, dans le cas de Metro Redux, ce truc qui me fait rigoler, je te dis, c'est la version PC, quoi. Mais enfin, un PC, t'as pas besoin d'avoir une version HD Remix dessus, en fait.
Ben, sauf si ils ont retravaillé tous les modèles du jeu, pourra pas, mais j'ai comme un doute, on va dire.
Ouais, mais enfin, moi, je vois mal l'évolution graphique de Metro Last Light être énorme non plus, quoi. 2033, ouais, mais Donc voilà. Et puis bon, 40€ encore, ça reste honnête pour deux jeux, surtout ces deux-là.
Ouais.
Qui sont quand même des jeux qui sont vraiment très bons.
Ok, nous allons donc maintenant passer aux dates. Evolve le 21 octobre. Est-ce que tu l'attends, mamie?
Oui. Ouais.
Pourquoi donc?
Alors, encore une fois, c'est il y a une chose que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la Wii U avant de me rendre compte qu'il y avait toujours pas de jeu dessus, donc j'ai bien fait de pas l'acheter. C'est le gameplay, alors que je dise pas de bêtises, asymétrique.
Oui.
Voilà, j'allais dire un synchrone. Non, asymétrique. Et là, c'est clairement du gameplay asymétrique dans Evolve. Et en plus, j'aime beaucoup les jeux en coop. Et là, c'est un jeu en coop à gameplay asymétrique. Donc, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est ceux qui ont fait Left 4 Dead, qui font Evolve actuellement. Ça reprend une structure quasi similaire, c'est-à-dire quatre personnages qui vont jouer tous ensemble contre un ennemi commun. Cet ennemi commun, ce coup-ci, donc c'est une bête géante, hein, la plupart du temps quand même, qui est jouée par un autre joueur. En théorie, hein, ça peut être joué par l'IA. Imaginons que vous êtes 5 joueurs, hein, toujours. Donc moi, je trouve ça très très intéressant, sachant que c'est beau et qu'en plus chaque gameplay de chacun des quatre chasseurs, donc je crois que ça s'appelle comme ça, est foncièrement différent, ce qui n'était pas trop le cas dans Left 4 Dead. Là, ils ont poussé la synergie entre les personnes beaucoup plus, et on nous promet donc une chasse épique avec quand même des petits trucs en plus qui sont des sortes de petits PNJ mais hostiles suivant la carte où on est, etc. Donc voilà, en plus c'est des structures à mon avis de parties courtes, c'est-à-dire que c'est pas comme Left 4 Dead où ça pouvait paraître un peu long sur la fin.
Alors là, je t'arrête tout de suite. En tout cas, il y a les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y en a quand même qui duraient 50 minutes. Donc une partie de Dota 2, tu vois. Donc on a vu plus court.
Sérieusement ?
Oui, oui.
Mais il me semblait que c'était plus court que ça, parce qu'un seul ennemi contre 4 personnes.
Non, mais autant pour moi. Je veux dire, ça va dépendre des monstres, ça va dépendre des maps, sûrement.
Ouais.
On n'a pas tous les clés en main, mais la vidéo qu'on avait vue, justement, c'est une remarque qu'on avait fait avec ATH et Mandren. On avait très peur que ce soit trop long, justement, parce que la vidéo qu'on avait vue, elle était super longue, quoi. C'était une partie de Dota 2, quoi, clairement.
D'accord. Bon, bah, après tout, on regarde le nombre de gens qui jouent à Dota 2, hein. On est bien placé pour savoir. Ça va. ça n'embête pas.
Ah oui,
pas.
Moi, ça me dérange pas. Mais par exemple, je vois, j'en discute avec Mandren, lui, ça lui va pas du tout, quoi. Parce que c'est beaucoup trop long pour lui, en fait. Il a pas le temps, tu vois, de consacrer autant, bah, justement, à un jeu, quoi.
Oui. Donc bah ça reste un peu sur la durée que pouvait faire un Left 4 Dead, hein, quand il pense campagne, ça. Donc voilà, après ça m'a l'air quand même beaucoup plus dynamique, à n'en pas douter. Il y a des jetpacks, des trucs comme ça, des tourelles, des trucs spéciaux, machin. Mais en tout cas, le jeu, en tout cas, m'a l'air extrêmement intéressant. De l'aveu des développeurs, il a été pensé en partie pour pourquoi pas devenir un jeu e-sport. Donc, pourquoi pas, après tout.
Alors là, je t'avoue que l'aspect e-sport du truc m'échappe un peu, mais parce que bon, il y a quand même un aspect compétition que je vois mal comment tu vas le rendre sur un jeu comme ça, quoi. Parce que d'un côté, donc, t'as un mec qui est tout seul, de l'autre, t'en as quatre. Comment tu organises les équipes, les tournois, etc. Enfin, c'est très spécial, quand même.
Oui. Mais en tout cas, c'est de leur aveu, c'est ils le voient bien devenir un jeu e-sport. Mais ça peut donner des mal. En tout cas, le jeu m'a l'air assez dynamique et intéressant pour qu'il soit autant intéressant à regarder qu'à jouer. Donc à ce niveau-là, voilà. C'est pour ça que moi je l'attends vraiment beaucoup, et parce que bon, les FPS Call of Duty Battlefield-esque, c'est rigolo deux minutes, mais il me semble que maintenant, il faudrait peut-être penser à faire évoluer le genre, et Evolve pour le coup m'a l'air pas mal pour cette évolution là, quoi.
Oh là là, mamie, ouhou, tu renformes là. Oh, attention, mamie, il est on fire là. Faites attention, les gens. Bon, Westland 2 en août. Alors Westland 2, je rappelle donc que c'est l'un des plus gros projets ayant été financé sur Kickstarter. Je rappelle que Westland à la base, donc c'est la licence qui a inspiré Fallout. Hein, rien que ça, que l'équipe qui est dessus est pas dégueulasse, puis voilà. Bon, c'est un jeu qui est attendu au tournant, quoi, forcément. Je veux dire, c'est un des jeux qui a ponctionné le plus d'argent sur la plateforme de financement participatif, donc voilà, c'est attendu au tournant. C'est clair que je vais y jouer cet été, vu que j'avais backé le projet, que je l'attends énormément, que les retours que j'ai jusqu'à maintenant sont assez positifs globalement. Bon, j'imagine que Mamie, lui, il est en mode de méfiance. C'est un jeu indépendant, hein, c'est un jeu.
Non, parce que moi, la méfiance, c'est sur les jeux indépendants à graphismes spéciaux. Voilà. C'est tous ceux qui se vendent sur leur graphisme. Westland, c'est clairement pas le cas, hein.
Ah non, ils se vendent pas du tout sur ces graphismes, ça c'est clair.
Donc là déjà, quand tu commences à te vendre sur autre chose que sur ta tronche, ça me paraît déjà plus légitime, on va dire.
En plus, ils développent sur Unity, donc c'est forcément des gens bien, hein, mamie.
Tout à fait. Unity, c'est très bien.
Voilà. Ce VRP, oh là là. Bon, et enfin, pour terminer, Among the Sleep, le 29 mai.
Ouais.
Mai. Et donc, pourquoi on vous en parle? Parce que c'est un jeu dont on a pas mal causé dans ces podcasts. Je rappelle que Among the Sleep, le principe, c'est que vous jouez un gamin, mais vraiment un gamin, quoi. C'est genre 5 ans pas
un
plus,
bébé,
quoi.
Ouais.
Et encore, c'est peut-être même moins, je pense.
Non, un bébé, puisqu'il sait pas marcher.
Oui, un bébé, oui, effectivement.
Voilà.
Après, je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est quand même super casse-gueule comme expérience, je trouve.
Mais c'est intéressant.
C'est intéressant, voilà. C'est le mot, c'est intéressant, curieux, parce que déjà il y a une body awareness pour un gamin, donc et puis même tout l'aspect horrifique du truc, je me demande comment ils vont faire pour réussir à faire flipper les gens. Surtout que moi, si tu veux, je suis un peu genre le mec qui fait exprès de torturer les gosses dans les jeux, donc oh tiens, un monstre, vite fonce droit sur le monstre, petit, fonce. Donc bon, voilà. Puis même, tu vois, j'ai un peu de mal avec les jeux genre je sais pas si tu connais Slender, The Arrival, où moi, franchement, en fait, tu me vois un truc comme ça, mais en fait, la première chose que je fais, c'est que je fonce sur le monstre, quoi. Ça marche pas du tout avec moi, ce truc, en fait.
Après, Among the Sleep peut être extrêmement intéressant sur l'horreur, puisque quand même, l'un des ressorts principaux de l'horreur, c'est le rappel à l'enfance. Mmh. Or là, tu joues un bébé, donc le rappel à l'enfance, il est à peu près, c'est bon, quoi, on a compris. Enfin, moi, je sais pas vous, mais enfin, une musique de comptine pour gamin chantée par des petites filles, ça fait malsain. Tu têtes un peu avec un léger écho sur la voix des filles, ça fait super malsain tout de suite. Donc, ils peuvent vraiment faire de belles choses là-dessus, surtout que, comme tu dis, il y a la body awareness pour le bébé, donc on voit clairement qu'on est un bébé, hein. On parle pas, on est machin, et je pense qu'on a tous potentiellement un traumatisme de quand on était bébé, des premières choses qui nous ont fait peur, dont on ne se souvient pas, mais je pense que voilà, ce jeu peut jouer à fond là-dessus, et c'est intéressant justement de faire un jeu qui se base un peu sur autre chose que sur, comme tu disais, Slender, qui était très intéressant lui aussi, mais le problème de Slender, c'est que c'est une horreur à laquelle on s'habitue. Mmh. Du coup, moi, Slender, maintenant, je le fais sans avoir peur du tout, c'est plus drôle.
Et puis moi, franchement, lâcher Kikam de Slender, je peux juste pas, quoi. Non.
Ouais, voilà, en plus, il y a ça, et voilà, après, il y a des jeux qui font toujours peur et qui se basent énormément sur d'autres peurs, mais tous les jeux se basent uniquement, quasiment, que sur la peur de l'inconnu. Or là, bon, il y aura toujours de la peur de l'inconnu parce que c'est quand même la chose la plus simple à faire. Mais si tu rajoutes la peur de tout ce qui est lié à l'enfance, là, ça peut être une expérience assez nouvelle.
Voilà. Et pour terminer, donc conseil du manuel du rôliste papier, toujours se méfier des petites filles. Voilà. Si vous voyez une petite fille, c'est qu'il y a forcément un truc suspect. Et il faut frapper le premier. Oui, donc moi, dans BioShock, hein, les petites gamines, c'était pas forcément mes potes. Hein, mais voilà. Enfin, bref. Allez, on va passer au jeu du moment. Le jeu du moment, c'est un jeu qui était très attendu parce que les gens derrière le très connu Bastion sont derrière. Et ça s'appelle Transistor. I always thought it's hard to make new friends, but making enemies, I guess that's easy. We got 4 problems. We saw their faces. We know their names. Know what they're capable of. They'll find us again. They'll find you and finish the job. Unless you find them first. You always have a plan.
deserve something more.
Alors, Transistor, pour vous présenter un peu, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un... Comment dire? Là, vous voyez, avant de commencer, déjà rien que pour la présentation, je suis emmerdé. Parce que Transistor, en fait, il y a deux manières de l'aborder. Soit vous l'abordez comme un jeu d'action, soit vous l'abordez comme un espèce de RPG tactique, en fait. Et pour être tout à fait honnête avec vous, si vous l'abordez comme un jeu d'action, je pense que vous allez vous faire chier, mais d'une force assez incroyable, quoi. Pourquoi ? Parce que Transistor, si vous voulez, c'est un jeu où il y a des phases de combat qui sont entrecoupées de phases de pause, ce que Mamie appelait tout à l'heure de pause active, voilà, je vais chercher le terme, où en fait, le jeu frise le temps, si vous voulez. Et à ce moment-là, dès que vous bougez, il y a une espèce de jauge en haut de l'écran qui commence à baisser. Donc, vous l'aurez compris, dès que vous faites une action comme attaquer, bouger, etc., cette jauge baisse de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Et à ce moment-là, donc, vous exécutez les actions que vous avez programmées. Et là, vous la jouez animal dans l'agence touriste et vous faites « J'adore les plans qui se déroulent sans accroc ». Voilà. Et là, vous passez à la phase d'action. Une phase qui ressemble un peu plus à Bastion, mais qui pour le coup est beaucoup moins intéressante et travaillée, parce que vous, si vous voulez, en fait, c'est une phase qui sert un peu justement de transition par rapport à la phase où vous allez réfléchir. Et c'est là où, à mon avis, le bât blesse pour les amateurs d'action, c'est que ben un jeu d'action où vous êtes coupé toutes les 15 secondes par une phase de pause, même si vous n'êtes pas obligé de poser, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, si vous posez pas, ça va être très très compliqué pour survivre, quoi, on va dire. Si vous jouez le jeu en difficile, encore que la difficulté modulable, mais ça je l'aborderai tout à l'heure, eh bien, ne pas utiliser les phases de pause, c'est juste pas possible. Donc forcément, les phases d'action, bon, ça perd tout de suite un peu de son intérêt parce que le rythme est coupé, quoi. Alors, pour vous présenter un peu l'univers quand même, parce que c'est aussi l'un des principaux aspects du jeu, Transistor, alors, comment vous présenter ça sans vous spoiler? Ça aussi, tu vois, ça m'emmerde. on va dire que Transistor se déroule dans l'univers d'une démocratie idéale.
D'accord.
Et cette démocratie, en fait, c'est une démocratie où les citoyens ont le droit d'exprimer leur avis sur à peu près tout, y compris sur le temps qu'il fera demain, par exemple. Et oui, car la technologie est tellement avancée, si tu veux, que en fait, les mecs ont carrément le pouvoir de contrôler la météo et que donc, pour décider s'il pleuvra demain ou s'il fera grand soleil et machin, bah écoute, ils font des votes. Tu vois, c'est d'accord. Vraiment la démocratie appliquée à l'extrême. Et apparemment, ben, de ce que tu comprends de l'univers, c'est une démocratie qui marche. Sauf que, apparemment, dans cette démocratie, il y a une organisation qui dirige dans l'ombre, n'est-ce pas ? Et cette organisation est un jour venue voir votre personnage à vous, qui s'appelle Red, qui est donc une femme et qui est une chanteuse. Et Red, un beau soir qu'elle faisait son concert, a été attaquée par cette organisation, on ne sait pas pourquoi. Et donc, elle se réveille quelque part dans la ville, et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un ami à elle, et cette personne-là, il y a un petit souci, c'est qu'elle a un peu une épée plantée dans le ventre, quoi. Ah. L'épée qui devait servir à la tuer d'ailleurs, et l'épée se met à causer en fait, et la voix, vous l'aurez compris, c'est la voix de la personne qui est morte, et apparemment son âme a été enfermée dans cette épée là, quoi. Transistor, c'est un jeu, si vous voulez, avec une ambiance un peu matrixienne, quoi, on va dire. C'est un univers très coloré, mais en même temps assez froid, parce que tu te balades dans des décors assez futuristes, où tu sens que tout est artificiel, en fait, si tu veux. C'est super beau, c'est super coloré, mais tu sens que c'est artificiel.
D'accord.
Si vous voulez, c'est un jeu où, encore plus que dans Bastion, vous allez vous sentir seul, mais vraiment très très seul, quoi. Il y a bien des phases, tu vois, où tu vas arriver à des terminaux où ils vont t'expliquer un peu, où tu vas voir le journal qui passe, où tu vas voir le déroulé des événements dans la ville, parce que évidemment, pour toi, tu vas mener ta quête de ton côté, il va se passer des choses dans la ville, etc. Mais contrairement à Bastion, si vous voulez, où tu avais des espèces de phases de respiration, où en fait, t'avais la phase de construction. Je sais pas si tu as joué un peu, mamie, à Bastion.
Si, oui.
Tu te rappelles donc que tu devais construire un espèce de village, tu devais reconstruire le village, quoi.
Oui,
et
c'est
que
ça.
Dans ce village, donc, tu avais un ou deux PNJ, tu vois, qui étaient là, bon, qui t'accompagnaient, quoi. Et tu pouvais discuter avec eux, etc. Là, cette phase-là, tu ne l'as plus dans Transistor. Transistor, contrairement à Bastion, c'est une fuite vers l'avant, en fait.
Mm-hmm.
Et ça ne plaira peut-être pas, justement, aux amateurs de Bastion qui attendaient peut-être, je sais pas, un jeu exactement dans le même esprit, même si, encore une fois, Transistor reprend pas mal des principes de Bastion, quoi.
D'accord, mais ça reprend des principes, mais ce n'est pas copier-coller non plus.
Voilà.
Du coup.
Pour moi, Transistor, c'est un jeu que je recommanderais à des amateurs de RPG tactique comme Mordrain, par exemple. Parce que le système de pose active est extrêmement intelligent. Et surtout, c'est un système qui pousse à la découverte. Je vous explique. Comme dans Bastion, si tu veux, tu vas récupérer des pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure.
Mmh.
En gros, tu as trois façons d'utiliser un pouvoir. Soit tu l'utilises en pouvoir principal. Donc en gros, tu peux utiliser maximum 4 pouvoirs dans ta barre de compétences. Soit tu l'utilises en le combinant avec un autre pouvoir, c'est-à-dire donc que tu as un pouvoir principal et que tu lui ajoutes un sous-effet. Pour donner un exemple très simple, tu as la capacité d'invoquer un pet dans le jeu, si tu veux, un familier qui va t'aider. Eh bien, imagine que tu aies le pouvoir qui permet de charmer les ennemis. Eh bien, si tu mets ce pouvoir-là en support sur le pet, ça veut dire que le pet, quand il va taper, en fait, eh bien, il va charmer les ennemis adverses en leur tapant dessus. Voilà. Et enfin, tu as une troisième possibilité qui est le fait de mettre le pouvoir en passif. Et là, bah, justement, le pouvoir va avoir un effet passif. Alors, par exemple, il y a des bombes dans le jeu, si tu veux, et les mettre en passif, ça va faire que de temps à autre, il y a des bombes qui vont popper comme ça, et tu vas pouvoir les faire péter, ce genre de choses, quoi. Bref, il y a trois façons d'utiliser des pouvoirs, et c'est un système qui est, je le dis, extrêmement intelligent, parce que ça te crée des combinaisons qui sont extrêmement intéressantes, en fait. Il y a vraiment une richesse de possibilités qui est grisante, quoi.
Et les ennemis en tirent parti, c'est-à-dire qu'ils ont des faiblesses ou...
Alors, les ennemis, c'est peut-être l'un des défauts du jeu. Déjà, il y a un manque de variété, je trouve, au niveau des ennemis. Après, le fait qu'ils aient des comportements différents et des patterns différents, ça rend certains pouvoirs effectivement plus efficaces par rapport à certains ennemis que par rapport à d'autres. Je donne un exemple. Il y a des ennemis, si tu veux, qui, un peu comme dans Bastion, je sais pas si tu te rappelles les petites merdes là qui se dépassent un peu partout là. Il y a le même genre de truc dans Transistor, si tu veux. Sauf que pour tuer ces ennemis, t'as un pouvoir très efficace qui est, par exemple, le pouvoir de ricochet.
Ouais.
Il y a un ricochet sur tous les ennemis. Ben voilà, tu élimines ces petites merdes plus facilement, quoi. Alors que pour les gros boss, le ricochet, c'est pas forcément le pouvoir le plus efficace. Encore que, en le customisant, il y a moyen de faire des trucs pas mal. Voilà. Par rapport à la durée de vie du jeu, je pense que le bestiaire est suffisant. Et pour cause, le jeu... Alors, moi, j'ai lu quelque part qu'il se finissait en 5 heures. Honnêtement, moi, je vois pas comment c'est possible, sauf en lisant à peine les dialogues et le scénar, quoi. Moi, je tablerais plutôt sur 7-8 heures. Tu vois, pour le finir, en faisant toutes les quêtes annexes, etc. Enfin, je dis quête annexe, mais c'est plutôt les challenges, parce qu'il y a des challenges, si tu veux, comme dans Bastion, je sais pas si tu te rappelles,
oui.
où tu pouvais, ce qui servait un peu de semi-tutoriel, etc. Là, c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est-à-dire que dans Transistor, par contre, ça, je vous préviens, c'est pas un jeu qui va vous prendre par la main, quoi. Au début, t'es largué dans le jeu, comme ça, t'as pas de tutoriel, et peut-être que certains qui sont habitués à être pris par la main vont être un peu paumés, quoi. Moi, personnellement, ça m'a pas plus perturbé que ça, mais je reconnais que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, quoi. Et par contre, là, j'ai trouvé le jeu extrêmement bien, c'est que, du coup, bah justement, le tuto, il est en option, et... Ah oui, bon, je disais qu'il n'y avait pas le village, mais en fait, si tu veux, t'as un espèce d'endroit où tu peux te reposer, mais en fait, ça marche pas, ce truc.
Mmh.
Contrairement au village où, si tu veux, tu le reconstruisais, etc., là, il y a un peu rien à faire, à part, justement, aller faire les tutos. Donc, en fait, t'es toujours dans l'action, quoi qu'il arrive. Et donc, pour revenir au pouvoir, là où j'ai trouvé le jeu vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des idées de game design qui sont vraiment très futés. Je vous ai déjà parlé donc des différentes combinaisons. Ce dont je ne vous ai pas parlé par contre, c'est comment ils ont intégré ça à la narration. Chaque pouvoir dans ce jeu représente, comment dire, on va dire l'âme d'une personne. Parce que ce qui va se passer dans Transistor, c'est que tu vas croiser le chemin de personnes décédées, quoi, dirons-nous. Et en fait, ton épée va en quelque sorte absorber leur âme. Et quand tu vas aller sur la fiche du pouvoir, la première chose que tu vas voir, ce n'est pas la description du pouvoir, c'est l'histoire de la personne qui est derrière ce pouvoir-là, quoi. Et là où c'est vraiment très bien intégré, je trouve, d'un point de vue mécanique par rapport à la narration, c'est que une fois que tu vas équiper ce pouvoir dans un des différents slots et que tu l'auras utilisé, il y a un pan de l'histoire du personnage qui va se débloquer dans le menu. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que du coup, ça te pousse à explorer via la narration les différentes mécaniques de jeu, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu mets un pouvoir dans le slot imagine principal, tu débloques un pan de narration.
Mmh.
Quand tu mets ce pouvoir-là en support, ça te débloque un autre slot de narration vis-à-vis du personnage. Quand tu mets ce pouvoir-là, enfin, vous aurez compris, en fait, à chaque fois, il y a 3 textes pour chaque personnage, et donc, ça te pousse à mettre les pouvoirs dans les différents slots, à tester différentes combinaisons, non seulement pour faire des tests, mais aussi pour découvrir l'histoire du personnage.
C'est intelligent, oui, ça force à utiliser toutes les combinaisons, puis surtout ça donne une motivation supplémentaire pour faire des tests pour les plus flemmards, mais non, c'est très intéressant comme façon de faire.
Sachant qu'en plus, pour tout ce qui est combinaisons, etc., tu as l'endroit donc que je vous ai dit où vous pouvez vous reposer, il y a moyen de faire des tests justement de combinaisons pour tester ses pouvoirs, vous n'êtes pas obligé de les faire une fois en jeu. Mais justement, là où j'ai trouvé ça aussi intéressant, c'est que par rapport à la progression dans le jeu, le fait que ces pouvoirs-là ne se débloquent qu'une fois que tu les as utilisés en combat, ça te force à gérer tes pouvoirs, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une combinaison qui marche, tu ne vas pas forcément rester dessus, en fait. Enfin, sauf si tu t'en fous de l'histoire, mais là, bon, évidemment, et que tu t'en fous du gameplay accessoirement, parce que ça t'intéresse pas de découvrir un peu les différentes combinaisons, quoi. Parce que du coup, même si tu as une combinaison qui marche, tu te dis que, ok, alors, là, pour le gros boss, j'ai cette combinaison-là qui marche, donc je vais la garder, si tu veux. Mais par contre, là, je sens que c'est une phase plus calme. Du coup, je vais me permettre, tu vois, de switcher ce pouvoir qui m'est quand même vachement utile pour le mettre en pouvoir secondaire et mettre tel pouvoir un peu plus, que je trouve un peu moins bien, en principal. Mais du coup, comme là, c'est un peu plus pisse, tu vois, je peux me le permettre, etc. Donc, du coup, je sais pas si tu vois, mais il y a une gestion des pouvoirs induite par la narration que je trouve vraiment très intéressante. Et qui s'intègre très bien au gameplay. Une autre chose aussi que j'ai vraiment trouvé pas mal, c'est que pour ceux qui connaissent donc les productions de Supergiant, en fait, t'as pas un menu où on te dit que tu vas choisir la difficulté, quoi. C'est-à-dire que tu dois customiser ta difficulté. Alors dans Bastion, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelait, mais t'avais un système où tu pouvais choisir de te mettre des handicaps, il me semble, si je me souviens bien.
Oui, il me semble que oui.
Et c'est exactement la même chose dans Transistor, en fait. T'as ce qu'on appelle des limiteurs, hein, métaphore informatique, tout ça, que tu vas pouvoir te greffer. Alors, un limiteur, en gros, c'est genre les ennemis tapent deux fois plus fort, tu peux utiliser moins de pouvoir. Enfin, voilà, ça porte bien son nom, c'est des limiteurs, quoi. Tu te fous des handicaps, en fait, pour rendre le jeu plus difficile. Et si tu modules ta difficulté comme ça, en échange de points d'expérience.
D'accord.
C'est un jeu, globalement, si tu veux, que j'ai trouvé extrêmement bien construit. Par contre, il a des défauts. Alors, l'un des principaux défauts, déjà, c'est son interface. Alors, je vous assure que si ce jeu avait été disponible en Early Access, il y aurait eu un drame sur les forums de Steam, parce que, je sais pas, la personne qui s'occupait de l'interface chez eux est absolument sadique. Pour donner un exemple très simple, je vous ai parlé donc du système de combinaison de pouvoirs tout à l'heure, le fait qu'il y ait trois types de slots différents, etc. Eh bien, au lieu, tu vois, de faire un système simple où tu dis, bon, je sélectionne ce pouvoir, je vais dans l'interface, ah tiens, il y a ce pouvoir qui est déjà à cet emplacement-là, pas grave, je le mets par-dessus et clac, c'est terminé. Ah non, ça se passe pas comme ça dans Transistor. Hein. Il faut que tu ailles sur le pouvoir qui est déjà greffé dans ton interface.
Ouais.
Il faut que tu l'enlèves. Le truc, c'est que tu te rappelles plus forcément où tu l'as mis. Du coup, t'es obligé de retourner pour voir un peu où c'est les trucs, etc. Tu reviens en arrière. Fait, c'est chiant, tu vois. Tu dois l'enlever d'abord donc dans le menu principal. Ensuite, tu dois ajouter, prendre l'autre pouvoir, l'ajouter dans le menu. Enfin bref, c'est pas pratique si tu veux. T'as des allers-retours incessants en arrière qui sont, mais alors, d'une inutilité totale, quoi. Ça, plus le fait que l'interface, bon, certes, elle est cool, etc., mais elle est chargée pour pas grand-chose, à mon avis. Hein. C'est une interface qui fait joli, quoi. Ouais, c'est joli, mais c'est pas pratique. Et ça, c'est problématique dans un jeu où tu passes quand même pas mal de temps dans l'interface, quoi. Surtout qu'en plus, alors, il y a un truc qui est super relou, c'est que quand tu n'utilises pas tous tes pouvoirs, il y a systématiquement un message qui pop qui dit « Attention, vous n'avez pas utilisé tous vos pouvoirs. » « Oui, merci, je suis au courant. » Merci, super. Bon, honnêtement, on s'y fait, mais c'est juste que je t'assure qu'il y a des moments... la personne qui s'est occupée de l'interface, t'as envie de la flinguer, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment ils y ont pas joué au jeu? C'est pas possible. Enfin, ils ont pas utilisé leur interface à un moment donné. Parce que il suffit d'utiliser le truc 5 minutes pour se rendre compte qu'il y a un souci d'ergonomie, quoi, quelque part. Alors, je parlais du fait que pour moi, c'était pas un bon jeu d'action. C'est pas pour autant un RPG tactique parfait non plus. Je m'explique. Autant le système est très intelligent dans le fait qu'il, je trouve, remplace habilement l'alternance des tours qu'on peut voir dans les RPG tactiques classiques par un système de pause active puis une phase d'action. Mais le truc, c'est que t'es en stress parce que comme le jeu est en temps réel, ben voilà, il te met la pression, tu vois. Et ça, pour l'amateur de RPG tactique, c'est un petit bonus de pression qui est bienvenu, quoi. Parce que voilà, tu cours partout dans la map, t'essayes d'éviter les ennemis, tu te sens pas bien, tu vois, t'essayes d'éviter les trucs vite, tu vois, t'as la barre qui se remplit petit à petit, remplis-toi, tu vois, t'as les ennemis qui se rapprochent de toi de plus en plus, tu dis oh putain, je vais déguster, et là juste pile poil de cul au dernier moment, t'as la barre qui se remplit, clac, t'appuies sur la pause et ouf, tu souffles, tu vois, et ça pour l'amateur de RPG tactique, c'est vraiment bien. Par contre, il y a un truc qui est naze dans ce jeu, c'est la visée. Je m'explique. Transistor est un jeu en 3D isométrique. 3D isométrique, je sais pas si vous voyez bien, quand tu dois, par exemple, utiliser un pouvoir qui tire en ligne droite, ça peut être compliqué. Parce que quand tu vas utiliser certains pouvoirs, en fait, ils vont auto-loquer automatiquement un ennemi, à savoir l'ennemi le plus proche. Ce qui fait que l'angle de tir va être différent en fonction de ta position. Et donc, si avec ton pouvoir qui tire en ligne droite, tu essayes de toucher plusieurs ennemis d'un coup, ça devient problématique. Je sais pas si tu vois le truc.
Oui, j'imagine bien. Couille, oui,
parce que, et pourquoi? Parce que il manque, à mon sens, une fonctionnalité qui aurait très bien pu être implémentée dans le jeu. À savoir, par exemple, je sais pas, moi, utiliser le stick droit qui ne sert à rien pour orienter la position de ton personnage, tu vois. Sans bouger.
D'accord. Non, le stick droit sert à rien du tout.
Il ne sert à rien. Et c'est complètement con parce que ça fait que tu te retrouves à bouger ton personnage au petit bonheur la chance, à essayer de toucher un ennemi. Ah, merde! Zut, j'arrive pas à toucher l'autre qui est derrière. Bon, allez, hop. J'appuie sur la gâchette pour annuler ma dernière action. Je recommence.
Oh là là.
Ça, c'est pénible, tu vois. Bon. Heureusement, je veux dire, ça, c'est un pouvoir qui tire en ligne droite, tu vois. Je veux dire, pour les pouvoirs qui font des dégâts de zone, bon, à un moment donné, que le personnage soit placé là, là ou là, je veux dire, tu t'en fous, quoi. Mais pour ce pouvoir spécifiquement, et Dieu sait que c'est un pouvoir que j'ai utilisé parce que c'est un des pouvoirs les plus intéressants pour taper, ben, c'est relou, quoi. Et pour tous les pouvoirs qui tirent en ligne droite, enfin, à plus ou moins court portée, ben, c'est chiant. Voilà. Mmh. Alors, par rapport à la difficulté, la difficulté dans Bastion est assez constante du point de vue des ennemis. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas ressenti de palier brutal ou de truc en dents de scie. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez constant de ce point de vue-là. Par contre, je referai un autre reproche au jeu, c'est que ça manque de boss. C'est-à-dire que je suis un boss, grosso modo, au début, au milieu et à la fin, quoi. Et ça, c'est problématique parce que, comment dire, enfin, je sais pas, j'ai fini le jeu, si tu veux, je me disais, bon, ok, ça manquait quand même de combats un peu épiques, quoi, si tu veux. Surtout qu'en plus, le boss du milieu, tu te rends compte qu'il est plus fort que le boss de fin, en fait.
Ouais.
Enfin, je veux dire, à handicap égal, en fait, le boss du milieu est beaucoup plus chiant que le boss de fin. C'est ça le truc. Et pourquoi il est beaucoup plus chiant que le boss de fin? Parce que le boss de fin, si tu veux, il y a un système qui fait que quand tu perds tous tes points de vie, en fait, il y a un de tes pouvoirs qui saute. C'est-à-dire que ta barre d'action, ben, le pouvoir il saute, il est pas usable pendant X temps, voilà. Donc, quand t'es au bas du milieu, forcément, c'est plus chiant. Parce que, ben, il y a un jeu derrière. Et pour peu que ce soit un pouvoir qui soit très important pour toi, ça te fait un peu chier. Et du coup, t'es obligé de recommencer le boss, en tout cas pour limiter les dégâts un maximum, tu vois. Parce que, très clairement, c'est un boss, si tu fais pas gaffe, il peut te faire sauter tous tes pouvoirs de ta barre de tâches. Et du coup, tu vas devoir utiliser après des pouvoirs avec auxquels t'es pas forcément habitué. Par contre, le boss de fin, t'arrives, ben, tu t'en fous, c'est la fin. Donc, il peut te faire sauter tous tes pouvoirs, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vas le buter à la fin, et voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, du coup, le boss de fin, en termes de game design, si tu veux, bah, il est plus facile à aborder que le boss du milieu, quoi. Ce qui est quand même un peu con.
Oui, un petit peu.
Alors, à mon avis, j'ai bien précisé, si tu veux, que c'était à compétence égale. Enfin, à handicap égal. Parce que je pense qu'en fait, ils ont game designé le jeu de telle façon que le boss de fin, il pensait que tu te saurais coller plus de handicap entre temps, quoi. Mmh. Et donc, le boss serait, à mon avis, impraticable si t'étais plus dur, en fait. En tout cas, si tu te colles les handicaps. C'est ça le truc. Donc, c'est, à mon avis, c'est un choix de game design, si tu veux, qui est, comment dire, qui est volontaire, quoi. C'est voulu, en fait.
Ouais, c'est possible.
Voilà. Ah oui, il y a aussi le truc quand même au niveau de la narration que j'ai pas abordé, c'est la voix du narrateur. Je dis la voix du narrateur parce que là j'ai Bastion en tête, mais en fait pour le coup c'est pas du tout à fait comme dans Bastion, parce que donc dans Transistor tu as une épée qui parle, n'est-ce pas? Là où dans Bastion donc tu avais le gars qui commentait la moindre des actions parce qu'il racontait ton histoire, en fait là c'est pas pareil. Là si tu veux, tu as cette épée qui joue le rôle très clairement d'un personnage dans le jeu et qui t'accompagne. Et là, pour le coup, par contre, contrairement à Bastion où je trouvais ça réussi, je trouve que dans Transistor, autant le jeu de Logan Cunningham, donc qui était aussi le narrateur de Bastion, est pas du tout en cause. Moi, j'adore cet acteur, je trouve qu'il fait de l'excellent boulot.
Oui.
Par contre, je trouve que l'intégration de l'épée est moins réussie que le narrateur dans Bastion. Pourquoi? Parce que ces dialogues, ça se résume essentiellement à ce qu'on appelle des one-liners au cinéma. C'est-à-dire que, voilà, il fait des phrases assez courtes, qui manquent un peu de consistance, quoi, on va dire, et c'est peu de le dire. Si tu veux, j'ai trouvé ça moins inspiré que dans Mastion, et ce d'autant plus que Logan Cunningham, donc, qui est l'acteur qui fait la voix, il a fait une démonstration, si tu veux, de dialogue parlé dans Primordia qui était excellente, et du coup, le voir revenir dans Transistor avec des one-liners, tout ça, comme ça, tout le long de l'aventure, je te cache pas que j'ai été un peu déçu quand même. Je veux dire, au lieu d'avoir une épée qui parle, t'as plus l'impression en fait de voir une personne âgée qui est en train de radoter, quoi. Je sais pas si tu vois le truc. Ça fait très bizarre, quoi. Ça s'intègre mal, je trouve, à la narration pour le coup, qui, mis à part ça, est très réussi. Que ce soit la narration par les décors, parce que bon, il y a toute une direction artistique absolument magnifique qui te raconte beaucoup de choses par les décors aussi. Il y a plein de choses en termes de narration qui sont excellentes, mais ça, par contre, l'espèce d'épée parlante là, pour moi, elle est pas réussie, quoi. Voilà. Donc, Mamie, est-ce que tu as des questions peut-être par rapport au jeu, etc. Sinon, nous allons conclure.
Non, t'as été très clair. Tu donnes envie d'y jouer, en tout cas. Je vais voir si je peux pas y jouer. Du coup, mais non, il a l'air après, à partir du moment où, de toute façon, un jeu, bon, la direction artistique, encore une fois, moi, je m'en contrefiche complètement, hein.
Oui, sauf que là, si tu veux, ça fait partie du tout, quoi, en fait. Tu enlèves la direction artistique, honnêtement, oui, ça reste un bon jeu, mais c'est pas un aussi bon jeu parce que elle apporte quelque chose, quoi.
Ah non, bien sûr, c'est pas ce que je dis que faisant partie d'un tout, parce qu'un jeu c'est un tout, c'est pas ce que je vais regarder. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Par contre, tu me dis qu'il y a un gameplay vachement intéressant et intelligent. Là, je vais m'enseigner, je vais jouer. Donc voilà. Donc non. Moi j'avais deux peurs et tu les as supprimées. C'était que une, c'était un joli jeu vide et non. Et de deux, c'était un Bastion 2 et non. Donc voilà, c'est parfait.
Voilà. Donc pour conclure, si vous aimez les jeux longs, honnêtement, c'est pas un jeu que je peux vous conseiller. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une replay value très intelligente. Non, parce que du point de vue du scénario, ils ont fait un truc très intelligent pour. Enfin, je peux pas vous le dire honnêtement sans spoiler, mais enfin voilà, il y a une replay value qui s'est introduit le mode comment on appelle ça déjà le mode
New Game Plus.
C'est très, ils introduisent ça de manière très intelligente. Enfin, j'ai trouvé il y a quelques différences qui sont vraiment très bien trouvées. Tu vas redébloquer les mêmes pouvoirs, sauf que tu as gardé les pouvoirs du run précédent. Je sais pas si tu vois, D'accord. Mais ça te donne plus de possibilités. Et comme le jeu est plus dur, bah justement, tu vas pouvoir exploiter ces nouvelles possibilités, etc. Bref, il y a New Game Plus qui est très intelligent. Par contre, c'est pas New Game Plus que vous ferez pour l'histoire. Et pour le coup, moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à refaire un jeu une fois qu'il a terminé, quoi. Sauf si vraiment il y a un scénar qui est entièrement nouveau, qui me pousse à redécouvrir le jeu. Et là, malheureusement, même s'il y a quelques petites différences, c'est pas suffisant pour me pousser, si tu veux, à replonger dans le truc, mais c'est suffisamment intelligent par contre pour intéresser les gens qui s'intéressent essentiellement au gameplay. Voilà.
D'accord.
Donc si vous êtes là pour à la fois profiter d'un système de combat tactique intelligent, mais aussi de profiter d'une ambiance, d'une histoire, etc., vous en aurez pour votre argent, je pense. 8 heures, moi en tout cas, ça me paraît honnête. Encore une fois, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que il faut absolument faire des jeux longs. Pour moi, toute la question est-ce que une fois le jeu terminé, j'estime être à satiété. Est-ce que j'en ai pas besoin de plus, etc. Et moi, quand j'ai terminé, je n'avais pas besoin de plus de jeux, en fait. Ça, pour moi, c'est terminé. Ça, c'est très bien. Ça a duré 8 heures. Voilà, c'est 8 heures. C'est 8 bonnes heures, et j'ai pas à m'en plaindre, quoi. Donc, si vous êtes un ayatollah à la durée de vie. Par contre, c'est clair que ça fera un peu court au jeune homme, quoi. C'est sûr. Voilà. Donc, un jeu à recommander aux amateurs de réflexion plus qu'aux amateurs d'action. Et pour terminer, un gros coup de gueule, par contre. Moi, actuellement, je ne peux pas recommander aux utilisateurs PC d'acheter le jeu. Pourquoi ? Parce que, autant moi, j'ai une tolérance au plantage qui est assez élevée, autant je me doute que la plupart de nos auditeurs, c'est pas le cas. Or, il faut bien voir qu'en 10 heures de jeu, j'ai quoi ? 10 plantages ? Donc ça fait un plantage par heure à peu près. Alors, pour certains, ça posera pas de problème, parce que moi, si tu veux, j'ai été élevé à des jeux atrocement buggés, genre Vampire Bloodlines, etc. Enfin, voilà, on va dire que je suis blindé à ce niveau-là, quoi. Mais, franchement, tu regardes les forums Steam du jeu, tu te rends compte qu'il y a plus de topics, de plaintes par rapport à des bugs du jeu, que sur des jeux en early access, comme par exemple Grim Dawn, où il y en a pratiquement pas, en fait. Et là, tu te dis que il y a quand même eu un énorme souci au niveau des tests qui ont été pratiqués sur le jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux dire qu'il plante autant sur autant de machines, qu'il y a eu des soucis où il y a eu des sauvegardes qui ont été effacées, parce que j'ai vu ça aussi hein, sur le forum de Steam, et qu'il y ait plein de soucis de planchage, etc. Je veux dire, c'est pas acceptable, quoi. C'est pas à un moment donné, je veux dire, il y a des tests qui sont faits pour ça, il faut que ça soit fait. Je pense que tu seras d'accord sur ça, mamie.
Ouais, tout à fait. Mais moi, à mon sens, 10 plantages sur 10 heures, c'est environ 10 plantages de trop.
Voilà.
C'est la première chose qu'on vérifie, c'est si un jeu plante. Maintenant, s'il plante, surtout que c'est pas un jeu extrêmement gourmand, quoi. Transistor, c'est pas un moteur à la Unreal Engine ou je sais pas quoi, tu vois. En 3D, j'entends, on sait jamais s'il a été fait avec Unreal Engine. Mais en tout cas, voilà, ça demande pas des trucs de fou. Il me semble, hein, les graphismes sont jolis, mais enfin, ça reste de la 2D, quoi.
Voilà.
Donc que ça plante comme ça, moi, je trouve ça inacceptable. Donc, du coup, j'ai reconsidéré le fait d'y jouer. Ouais. Sur les jeux qui plantent, pour moi, c'est inacceptable que ça sorte sur le marché.
Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, attendez quelques semaines, hein, que le jeu soit patché, tout simplement. Puis, allez-y, prenez-le en promo, si vous voulez. Je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Moi, à mon sens, c'est un jeu qui vaut le coup. Après, c'est sûr que, voilà, il y a des trucs, c'est clair qu'on peut pas cautionner ça quelque part non plus, quoi.
Ouais.
Voilà, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mamie, ça a été un plaisir, n'est-ce pas?
Mais un plaisir partagé, bien sûr.
Voilà. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut tout le monde.